Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous voici donc de nouveau ensemble en ce début de semaine pour la suite de nos lectures en liberté. Et le roman de Maya Kanaan-Mako, Avant qu'elle s'en aille. Mon père est un homme d'habitude. À Rome, nous allions manger une pizza le dimanche soir. À Pékin, nous avons écumé les quelques restaurants accessibles aux étrangers. Nous sommes là, mon frère, mon père et moi, de ne pas savoir quoi choisir parmi les plats chinois. Mon père fait bonne figure dans les dîners officiels, trop nombreux pour l'homme routinier et peu mondain qu'il est. Lorsque nous sommes en famille, nous nous rabattons invariablement sur les mêmes plats. Le même plat de bœuf sauté accompagné de riz blanc. Ma mère, aussi aventurière en cuisine que pour le reste, toujours en quête de nouveautés, expérimente chaque fois une spécialité différente et se rabat grimaçante sur nos assiettes à la première bouchée. « Je peux t'en prendre un peu ?» Nous en sommes au balbutiement de l'ouverture économique voulue par Deng Xiaoping à partir de 1979. Rien ne parvient encore à l'étranger. Tout ce que nous consommons provient de Chine. La seule boisson gazeuse à laquelle nous avons droit est une horrible orangeade sirupeuse. Et nous voyons arriver avec une joie non feinte les premiers Pepsi-Cola qui préfigurent les changements économiques et l'entrée de la Chine communiste dans l'ère post-Mao Tse-Tung. On n'imagine pas notre joie à l'arrivée d'une des premières denrées ayant réussi à passer la douane, des tic-tac à l'orange. Nous voilà donc, en ce dimanche midi, en route pour un de ces grands hôtels qui mixent culture chinoise et occidentale en un savant et délicat mélange. On peut choisir un hamburger frites, une salade César ou un club sandwich. C'est un moment privilégié et joyeux. Lorsque ma mère le décide, le repas se poursuit par un opéra chinois dont nous ne comprenons pas bien les subtilités, ni les nuances d'aigu, mais qui nous fascine. Lorsque c'est mon père qui le choisit, l'après-midi se poursuit par le visionnage d'un film en VHS envoyé par nos cousins français, La Grande Vadrouille, ou Les Aventures du Rabbi Jacob avec Louis de Funès. Ma mère part alors bouquiner dans sa chambre et nous nous esclaffons tous les trois. Elle n'est pas du genre à pouffer de rire devant un film de Gérard Houry. Elle est du genre à vous emmener voir des films russes sous-titrés en chinois à 12 ans sans vraiment comprendre pourquoi ça ne vous a pas passionné. À Pékin, elle fuit ses compatriotes, trouve des excuses polies à leurs invitations. Elle comprend mal cette communauté française repliée sur elle-même. Elle a honte quand elle s'aperçoit que ces femmes de diplomates qui représentent son pays ne parlent aucune autre langue que la leur et n'ont aucune intention d'essayer. De son côté, elle prend des cours de chinois, a rencontré tous nos voisins et participe activement à la vie de la communauté diplomatique. Sa meilleure amie est indienne, voilée jusqu'aux orteils, mariée à un Iranien. Ma mère donne aussi des cours de français à l'ambassadeur argentin post-dictature et aux enfants de l'école américaine. Elle aime qu'on aille rompre le jeûne avec les Égyptiens après le ramadan ou faire un pique-nique avec nos voisins allemands aux abords des tombeaux Meng encore à l'abandon. Elle trouve à Pékin ce qu'elle aime le plus au monde, une multitude de mondes à découvrir. L'été, je vis en roller et parcours la ville quadrillée de pistes cyclables bien avant les villes occidentales. Nous sommes une bande de jeunes d'Afrique et d'Europe à nous retrouver tous les après-midi. Lac gelé du palais d'été en hiver. Immenses étendues de glace sur laquelle nous nous élançons, patins aux pieds. Maladroits, inquiets lorsque la glace semble moins solide, nous nous aventurons sur cette étendue sublime. Il fait froid, forcément très froid. Je ne sens plus mes pieds. Mes orteils sont douloureux. Mes doigts sont trop engourdis pour enlever mes patins. Mon frère s'agenouille devant moi sur la glace, il retire mes patins, frotte fort mes pieds l'un après l'autre, souffle dessus jusqu'à ce que les sensations reviennent. J'ai rapporté des poussins du marché aux oiseaux de Pékin. Je ne sais pas bien comment on m'a laissé faire. Nous vivons dans un appartement avec moquette et n'avons qu'un misérable balcon, pas un centimètre carré d'herbe. Je leur ai donc construit une sorte d'enclos à ciel ouvert au 16e étage. Mais de temps en temps, je les laisse gambader dans l'appartement. Mes parents reçoivent ce jour-là le numéro 2 de la FAO et son épouse en déplacement officiel. C'est un Anglais bedonnant et rougeau que mon père tient pour un incompétent notoire, mais puissant. La lutte coloniale est peut-être encore de mise. Ils sont là, dans notre salon, autour d'un verre, à discuter aimablement, quand j'entends la voix de mon père qui gronde. « Maya, viens tout de suite chercher ta volaille !» Mes poussins gambadent autour de la table basse. Ils sont lancés dans une course-poursuite et frôlent à chaque tour les jambes de nos invités. La femme pousse des petits cris et lève haut ses jambes dodues alors que ma mère tente d'attraper un des volatiles sans y parvenir. Je me lance à mon tour à leur trousse, sous le regard effaré de nos invités. C'est une période en suspension, harmonieuse, douce, un état de grâce. Le calme avant la tempête. Une sorte de château de sable dont nous ignorons la fragilité. Répétition de gestes, routine, cette vie-là nous rend heureux. Et puis, d'un coup de pied, tout s'effondre. L'année scolaire se termine, nous allons prendre l'avion pour rentrer en Europe. La petite école française de Pékin ne va pas au-delà du collège et mon frère entre en seconde. Personne n'évoque la possibilité qu'il puisse faire sa scolarité par correspondance. Je pourrais faire ma cinquième ici, mais personne n'envisage non plus que je puisse rester à Pékin sans mon frère. Nous avons alors 14 et 12 ans. Nous partons pour la France où nous n'avons jamais vécu. Nous ne reviendrons qu'une fois en Chine, l'été suivant, pour retrouver nos parents avant les congés annuels de notre père et notre réinstallation à Rome avec notre mère. Pékin, Paris, Rodez. 8000 kilomètres nous séparent de nos parents. 700 kilomètres nous séparent mon frère et moi. Je vis à Rodez dans la famille de mon oncle que je connais à peine, tant notre famille française est nombreuse et éparpillée. Mon frère est en pension à Paris, à Stanislas, chez les jésuites. Nous passons le mois d'août en Normandie, puis après un bref passage par la capitale, mon père m'accompagne à Rodez par le train de nuit. Nous arrivons le matin tôt. Il reste la journée et repart le soir même pour se rendre directement à l'aéroport Charles de Gaulle, d'où son vol pour Pékin décolle le lendemain. Je découvre la maison, le presbytère qui jouxte le temple où mon oncle pasteur officie. Ma tante et mes cousines m'attendent. Mon père a pris rendez-vous avec la principale du collège où je vais être scolarisé, le collège Joseph Fabre. Je passe d'une classe de 6 enfants à Pékin à une classe de 30 élèves dans un collège usine, 10 classes par niveau. Cette dame n'est pas habituée à rencontrer les parents des enfants inscrits. Mon père, costume cravate, a besoin de savoir à qui il a affaire avant de repartir à l'autre bout du monde. Il se présente, puis il l'interroge sur le projet de l'établissement. Je vois bien que ces deux mondes ne se connaissent pas. Je m'enfonce dans ma chaise, pendant que la femme, perdue derrière son grand bureau, balbutie quelques explications. J'ai un peu honte de son côté ministre, de sa confiance en lui. Rien d'arrogant pourtant, juste de l'assurance. Et le sentiment net qu'il va falloir s'habituer encore à un tout autre environnement. Nous nous promenons dans la ville, entrons dans la cathédrale, flânons dans les ruelles, puis il dîne avec nous et règle les questions pratiques de mon installation. Derniers instants avant de le raccompagner à la gare. J'ai le cœur serré, là, sur le quai de la gare. À cet instant, je doute, j'ai peur. Mais à mon retour, mes cousines ont installé 4 matelas dans le salon. La boule d'anxiété se dissipe. Je comprends que je ne pouvais pas mieux tomber. Pour mon frère, c'est une tout autre musique. Il est convenu qu'il sera interne. Il ne le reste que 4 jours, fuyant le pensionnat jésuite, rampant devant la loge pour ne pas être vu par le gardien. C'est ma mère qui s'occupe de son installation. Elle sent bien qu'il est malheureux dans cet univers étriqué, à 1000 lieues du multiculturalisme qu'il connaît. Elle transige sur le pensionnat, passe quelques coups de fil. Il sera finalement accueilli par son parrain, mais continuera sa scolarité à Stanislas. Bien plus tard, elle me raconte la séparation. Le jour où elle repart pour la Chine. Pauvre chéri, il courait en pleurant derrière le car Air France qui m'emmenait à l'aéroport. Il doit beaucoup intellectuellement à la confrontation avec cette France bigote, raciste, bourgeoise et blanche qu'il découvre douloureusement. Il subit pour la première fois de son existence le racisme qu'il ne connaît pas, ni envers lui, ni envers les autres. Il se met à suivre les sondages, analyse les pourcentages de la montée du FN et étudie les courbes. Paris devient un laboratoire politique. Il ne l'aime pas. Il essaie de comprendre.
Tout ce que l'homme fut, de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux, à Grenade aujourd'hui surgit devant le crime, et cette bouche absente, et l'orca qui s'est tue, emplissant tout à coup l'univers de silence. Contre les violents, tourne la violence. Dieu le fracas que fait un poète qu'on tue. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de paix. Un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront. comme un oiseau. Sur la plus haute branche, ah, je désespérais de mes frères sauvages. Je voyais l'avenir à genoux, la bête triomphante et la pierre sur nous, et le feu des soldats porté sur nos rivages. Quoi, toujours ce serait par atroce marché, un partage incessant que se font de la terre entre ces assassins que craignent les panthères et dont tremble un poignard quand leur main l'a touché. Un jour pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront. Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Quoi, toujours ce serait la guerre, la querelle, les manières de roi et des fronts prosternés, et l'enfant de la femme inutilement né, les blés déchiquetés, toujours des sauterelles. Quoi, les bagues toujours et la chair sous la roue, le massacre toujours justifié d'idoles, au cadavre jeté ce manteau de parole, le baillon pour la bouche et pour la main le clou. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront. Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Nous revenons à notre lecture du roman avant qu'elle s'en aille après cette pause musicale. Tous les dimanches soirs, mon frère m'appelle. C'est notre rendez-vous. J'entends souvent sa voix flancher, lui, à qui on a confié la lourde tâche de prendre soin de nous deux. Il prévoit nos vacances, mais c'est ce qui lui permet de tenir. Il se projette dans l'avenir pour échapper à son environnement, s'occupe des billets de train ou d'avion, me tient informé du planning. Je le laisse faire. À chacune des vacances scolaires, je prends le sacro-saint train de nuit et arrive à l'aube sur le quai de la gare d'Austerlitz. Mon frère m'attend. Silhouette encore frêle, mais décidée au bout du quai. Nous marchons dans l'aube de la ville froide. Nous errons au gré du programme qu'il a préparé et de nos envies. Nous sommes bien. Nous avons devant nous une journée à flâner pour aller au cinéma, traîner dans les rayons des magasins, manger un sandwich sur les quais de la Seine. Nous retrouvons ensuite tante Leïla, l'égyptienne, ou Aline, la française. Nos parents à l'autre bout du monde, notre famille nombreuse, attentionnée, prend le relais. Nous dormons sur le canapé de tante Leïla, dans la chaleur orientale de son petit appartement. Nous goûtons avec elle chez Angelina, discutons des heures entières de nos vies, de la sienne, de l'Égypte et de sa jeunesse. Puis, nous prenons le train et retrouvons Aline, ma marraine, qui nous embarque dans son break pour les vacances sur son île du Morbihan. Des anges gardiens dans nos vies. La Dolce Vita. Il est tard. J'ai plongé dans un passé lointain et j'ai besoin de prendre l'air. Roberta a fait irruption dans le salon, bras grands ouverts et voix qui porte. « Alors, on y va, ma poulette ?» Ma mère et Giorgio sont toujours heureux de voir mes amis. Ils l'invitent à s'asseoir, l'abreuvent de questions, veulent qu'elle revienne les voir. Elle promet. Elle viendra prendre le café quand elle passera dans le quartier. Mais c'est devenu rare. Quand son père Angelo est mort, sa famille a quitté l'appartement. Nous nous levons pour sortir. Ma mère s'inquiète de savoir si j'ai bien pris les clés et à quelle heure je vais rentrer. Comme si j'avais enfin 15 ans à ses yeux. Roberta conduit comme une dingue, ce qui ne me rassure pas. Je sais que sa vue est approximative. Elle a tendance à saluer par de grands gestes des gens dont elle se rend compte a posteriori qu'elle ne les connaît pas. J'y suis habitué, alors je la pince. « T'es bien sûr le mec là que tu le connais ? Parce que lui, il n'a pas l'air de savoir qui tu es. » Elle, « Ah bon ?» Alors elle s'approche et en effet elle se rend compte qu'elle ne le connaît pas. Elle s'excuse, dit qu'elle n'a pas ses lunettes et se fait un copain. Ça, c'est Roberta. Elle est revenue à Rome après 20 ans de mariage en Allemagne et n'a plus l'intention de bouger de sa ville. Elle a eu sa dose. Ce soir-là, on danse beaucoup. Elle me présente sa dernière conquête. Depuis son retour, elle les enchaîne. Et pour l'instant, je n'ai pas vu deux fois le même. On rigole, on se parle au bar ou sur la piste. On n'a pas besoin de se connaître, on n'est pas méfiant. J'ai oublié combien j'aimais cette simplicité des rapports. Je replonge dans notre vie d'avant, si lointaine, douce sensation, atmosphère bon enfant que dégage encore aujourd'hui la nuit romaine. Le jardin des orangers. Je suis rentré tard et me suis endormi vite. En pleine nuit, je suis réveillé par une dispute. Mon beau-père, le souffle court, crie qu'il est fatigué, qu'il a besoin de se reposer la nuit et qu'elle ne peut pas le réveiller à tout bout de champ. Elle insiste, répond qu'elle doit absolument acheter ce cadeau pour l'anniversaire d'Elena. Elle a tellement peur d'oublier qu'elle le lui rappelle même la nuit. Je comprends que la dispute est partie de là. Alors qu'il lui dit que c'est déjà fait, elle lui tient tête. Elle affirme qu'elle n'a pas encore acheté ce cadeau, qu'il faut qu'il l'accompagne. Il lui répète précis qu'ils ont passé 2 heures dans une boutique du Testaccio pour choisir un parfum. « Pouf, n'importe quoi, je le saurais si je l'avais fait !» rétorque-t-elle. « Ça suffit !» Il ne veut plus en parler. Il veut dormir maintenant. Il est délicat. Il ne lui dit pas que le problème est justement là. Non, elle ne sait plus. Le matin, alors que nous sommes attablés devant le petit déjeuner et que le cadeau joliment paqueté est posé à côté de nous, je tente de la raisonner. Pourquoi ne veut-elle pas le croire ? Pourquoi lui mentirait-il ? Qu'aurait-il à y gagner ? Elle ne répond rien. Son regard fixe sa tasse de thé au lait, puis elle relève la tête et s'obstine. « Je t'assure, Maya, ce n'est pas moi qui ai acheté ce cadeau. » J'abdique. Je lui propose de faire quelques pas jusqu'au belvédère du jardin des orangers, notre parc, celui où elle a rencontré Mara, a promené nos landaus de bébé, nous a emmenés lorsque nous étions trop petits pour traverser la rue tout seul. Je lui montre le banc où nous fêtions les anniversaires. En général, quatre à la fois, celui de nos amis d'enfance, David et Olivier, de mon frère et le mien. Nous sommes tous nés entre mai et juillet. C'est à cette période-là qu'on invite les amis et qu'on installe sur le banc les boissons et le gâteau au chocolat. On sort les sacs de jute, les œufs, les ballons, on ne s'amuse pas plus que d'habitude, mais on marque le coup. Notre jardin et notre enfance ont un goût de paradis. De la terrasse du belvédère, Rome s'étend à nos pieds. Ma mère se penche légèrement. Elle parle à voix basse, presque dans un murmure. J'aime le bleu du ciel, l'odeur des pins parasols, le son des cloches qui sonnent et l'agitation de la ville qui remonte. Elle s'arrête. Ses yeux bleus brillent, ses yeux qui, comme les mers du Nord, changent de couleur en fonction du ciel. Je crois que j'ai choisi de rester vivre ici pour cette façon qu'ont les Romains de tourner en dérision ce qu'il y a de plus grave, de plus essentiel, te rappelant toujours élégamment que tu ne fais que passer comme l'ont fait d'autres avant eux et comme le feront d'autres après toi. Puis, alors que son regard embrasse la ville, elle ajoute « Nous faisons partie d'une longue chaîne humaine, d'un peuple immense qui vit les mêmes histoires. » Les choix de Jean Selim. Jean Selim a d'abord pensé faire médecine. Le jour de l'annonce du résultat du bac, nous finissons la soirée sur la terrasse de notre immeuble. Profs et anciens élèves sont là pour fêter l'événement. Je l'entends discuter assis dans un coin avec un prof de maths qu'il aime beaucoup et dont je sais que la vie compte. C'est un homme doux qui vit avec une enfant handicapée. Je ne sais pas ce qu'ils se disent ce soir-là, mais le lendemain, au petit déjeuner, Jean Selim annonce de façon péremptoire qu'il ne fera pas médecine, que cela pourrait le rendre distant, moins humain. La discussion est close. Je ne comprends rien au raisonnement qui est le sien, mais il est décidé. Il s'inscrit dans une petite école de commerce franco-américaine à Paris, dont je ne comprends pas bien en quoi elle va lui ouvrir les portes de l'humanisme auquel il aspire. Mais le fait est qu'il s'y sent à l'aise, en confiance, pour apprendre, assez brillant pour finir en 3 ans ce qu'il est supposé faire en 4. Il a 21 ans lorsque, son diplôme en poche, il se présente devant les recruteurs de l'ONG Action contre la faim. Pas question pour lui d'évoquer cette maladie héréditaire dont il a déjà souffert, mais pour laquelle il est bien suivi à l'hôpital Necker et qui devrait, statistiquement parlant, le laisser en paix pendant les 30 prochaines années. Trop content de cette recrue, et sans trop poser de questions quant à son jeune âge, il l'envoie aussitôt comme logisticien dans l'enfer de Mogadiscio. Je comprends alors seulement où il voulait en venir ce jour de juin, où quelques années plus tôt, il avait décidé de ne pas faire médecine. Première mission avant d'autres, qui s'enchaîneront, notamment en Bosnie. Le regard de mon frère. Sur son étagère, ma mère garde précieusement le livre qu'a écrit mon frère, sa version française, avec en couverture son beau visage émacié, pensif. Il a alors 22 ans. Il porte un gilet pare-balles et se trouve à l'intérieur d'un char blindé au cœur de la Bosnie en guerre. Il travaille pour Médecins du Monde et revient après avoir ravitaillé un hôpital sous les tirs ennemis. Plus tard, il me racontera les enfants malades qu'on ne peut plus dialyser et dont on sait qu'ils vont mourir. À cet instant, sur le cliché, il porte ce fardeau qu'aucun homme ne devrait avoir à porter. La mort d'enfants, rendue inéluctable par la folie des hommes. Ce regard de mon frère, c'est celui de l'innocence perdue. Voilà, nous avons terminé pour ce soir la lecture de ce roman avant qu'elle s'en aille, et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette lecture. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.